Bonjour chers auditeurs et amis fidèles de Bac FM. Il y a en ce moment un livre bien placé sur les rayons de vos libraires dont le titre est « L'enfer numérique », le sous-titre « Voyage au bout d'un like » et l'auteur, un journaliste et documentariste français d'une quarantaine d'années nommé Guillaume Pitron. Ce livre, entre autres choses, nous permet d'appréhender la géographie d'un like et de réaliser le côté très matériel de la dématérialisation. C'est-à-dire la dématérialisation, le numérique. Et c'est ce que nous vous proposons d'approfondir avec Christophe à l'animation et Guillaume Pitron, donc en personne, pour répondre à nos questions. Bonjour Guillaume Pitron et merci de votre disponibilité.
Bonjour, merci de m'inviter.
Alors je te laisse Christophe poser la première question.
Bonjour Guillaume Pitron.
Bonjour.
On va commencer avec une question assez simple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une terre rare et comment elles sont utilisées dans le domaine du numérique ?
Le numérique est un monde fait de métaux. Le numérique, c'est quoi ? C'est des téléphones portables, des tablettes, des ordinateurs, mais c'est aussi des serveurs dans lesquels sont stockées nos données. Et ces serveurs se trouvent dans des centres de stockage de données, les data centers. Le numérique, ce sont des câbles sous-marins pour faire transiter l'information. Demain, ce sera encore davantage de constellations de satellites. Donc pour toutes ces technologies, il faut des métaux. Et les téléphones portables, notamment, sont constitués d'une cinquantaine, une soixantaine de métaux différents, dont les terres rares, qui est une famille de métaux très particuliers, qui s'extrait notamment et surtout en Chine. Et ces terres rares, il y a 15 métaux de terres rares qui, en fait, sont dotés de propriétés physiques et chimiques tout à fait exceptionnelles. On trouve, par exemple, une terre rare appelée le néodyme dans le vibreur de notre téléphone portable. Le vibreur est un petit aimant qui est composé notamment de ce néodyme, et quand vous l'avez mis votre portable sous mode vibreur, c'est grâce à cette terre rare. Et cette terre rare aujourd'hui, elle permet de fabriquer des aimants tout petits, bien plus petits que si on faisait comme dans les années 90 des aimants avec un dérivé du fer qu'on appelait la ferrite. Et donc la terre rare, cette terre rare en particulier, a rendu notre vie beaucoup plus miniaturisée. Elle a permis notamment, entre autres, de miniaturiser les téléphones portables. Donc on ne connaît pas forcément leur existence, et pourtant ces métaux, et notamment ces terres rares, sont devenus indispensables à nos vies numérisées, connectées, virtuelles.
Alors on reviendra sur cette question des terres rares pour aborder les problèmes environnementaux, mais vous avez écrit L'enfer du numérique, voyage au bout d'un like. Donc finalement, quand je like une publication, est-ce que vous pouvez nous donner un peu le voyage que fait ce like ?
En fait, le like, c'est un petit peu le symbole de nos vies numérisées, de nos vies connectées. Nous likons tous les jours, des dizaines de fois, peut-être même des centaines. Et je me suis posé la question, au moment d'écrire ce livre, L'enfer numérique, qu'est-ce qui se passe si j'envoie un like à mon voisin de bureau qui se trouve à 3 mètres de moi ? Est-ce que le like va voyager de mon téléphone au téléphone du voisin ? Et en fait, non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ce like, en fait, il va voyager à travers toutes les infrastructures d'Internet qui ont été déployées ces dernières décennies pour rendre nos vies connectées possibles. Donc le like, il part d'un téléphone, mais ensuite, avant d'aller jusqu'à l'autre téléphone, il va passer par une antenne 4G ou demain 5G ou une box Wi-Fi. Il va descendre le long des parties communes de l'immeuble. Il va se retrouver dans des câbles de cuivre sous les trottoirs des villes. Il va rejoindre d'autres câbles qui filent long des grandes voies de communication françaises, telles que les fleuves, les autoroutes. Et puis, si ce like a été produit sur un réseau social américain, il va traverser les océans, notamment l'océan Atlantique, puisqu'en fait, ce sont des câbles sous-marins qui vont faire transiter le câble. De l'autre côté de l'océan Atlantique, ce like va être stocké dans plusieurs data centers. Et puis après, le like va faire le chemin en sens inverse. Il va retraverser l'Atlantique, il va revenir jusqu'au téléphone de votre voisin. Donc vous voyez que pour vivre une vie très dématérialisée, en réalité on a besoin d'une infrastructure qui est gigantesque et qui est en passe de devenir la chose la plus vaste que l'homme n'ait jamais construite, tout ça pour des vies censément virtuelles.
Et à travers cette géographie d'un like aussi, vous nous faites passer à travers ce que vous montrez dans votre livre, est-ce que vous rappelez en annexe les 7 couches de fonctionnement d'Internet ?
Tout ce que je viens de vous décrire, en fait, ce sont effectivement les 7 couches de fonctionnement d'Internet. La 7e couche, elle correspond à votre terminal. La première couche, elle correspond à l'infrastructure physique du net, notamment les câbles sous-marins. Et entre ces deux couches, il y a 5 couches intermédiaires, couche réseau, couche transport. Et on ne parle pas forcément de façon très, très systématique dans le grand public de ces couches de fonctionnement d'Internet, mais pourtant elles sont indispensables à nos vies numérisées, à nos vies connectées.
D'accord. Est-ce que, pour en revenir à, vous avez défini ce que c'est une terre rare au début d'émission, est-ce que on s'achemine à terme vers une pénurie de terres rares? Et dans l'annexe 2 de votre livre, vous montrez bien, c'est très intéressant, que désormais dans un smartphone, il y a 54 éléments nécessaires à sa fabrication, dans sa composition, alors que dans un téléphone de 1960, il n'avait seulement 10.
Ce que vous dites bien, c'est que nos téléphones se complexifient de plus en plus. Et donc, le vieux téléphone à cadran circulaire des années 60, il contenait même pas une dizaine d'éléments de la table de Mendeleïev. Et celui d'aujourd'hui est toujours plus complexe parce que ce téléphone n'est plus seulement un téléphone. C'est une boussole, c'est un dictaphone, c'est un appareil photo, c'est une caméra, c'est aussi un outil qui permet de commander une pizza ou de rencontrer l'âme sœur sur un réseau social. Donc, ces téléphones sont devenus des petits bijoux de technologie composés de toujours davantage de métaux. Et on trouve dans ces téléphones différents métaux, dont effectivement les terres rares. Les terres rares ne sont pas vraiment rares, en fait. C'est un faux ami de les appeler rares. Ça veut plutôt dire qu'elles sont très diluées dans l'écorce terrestre. Ça veut dire que si je creuse sous le studio de Bac FM pour aller chercher un kilo de terres rares, il va falloir que je creuse extrêmement profondément, et beaucoup plus profondément que si je cherchais la même quantité de cuivre ou de fer, qui sont des métaux plus abondants. On trouve des terres rares en réalité partout sur Terre. On en trouve sous les océans, on en trouve même, figurez-vous, sur les crêtes des astéroïdes. Donc il n'y a pas de pénurie au sens géologique du terme. Il y aura toujours un gramme de terres rares à aller chercher quelque part. Mais je pense que la question sous-jacente, c'est à quel coût allons-nous aller chercher toujours davantage de terres rares dans des zones toujours plus reculées, toujours plus profondément, peut-être demain au fond des océans. Il va y avoir un coût économique additionnel, parce que les gisements les plus prometteurs ont été épuisés. Il va y avoir un coût énergétique et électrique additionnel pour aller raffiner ces terres rares qui sont toujours plus diluées dans l'écorce terrestre. Il va y avoir un coût, du coup, écologique additionnel. Quel est le coût écologique d'aller chercher les terres rares à 6000 mètres de profondeur dans les océans? Et puis, donc, il va y avoir un coût social. De plus en plus de communautés, de populations riveraines des mines aujourd'hui, et ça vaut pour les terres rares, ne veulent pas, en fait, que les terres rares qui se trouvent dans une mine, un gisement potentiel, soient exploitées. C'est le cas des Groenlandais qui, récemment, ont tout simplement refusé que des terres rares soient extraites pour le compte des Chinois au Groenland. Donc, en fait, c'est pas la question de la disponibilité physique-géologique de la matière qui va se poser, que celle de notre volonté collective à vouloir les extraire, compte tenu de tous les coûts additionnels que ça représente. Et c'est là que des risques de pénurie peuvent surgir, non pas parce que la matière n'est pas disponible, mais parce que nous ne voudrons plus les extraire, parce qu'on considérera quels sont leurs coûts d'extraction, tous les coûts que j'ai évoqués, sont supérieurs aux bénéfices escomptés. Et peut-être que là, il peut y avoir des pénuries, en tout cas des pénuries, limitées dans le temps et dans l'espace, mais des pénuries quand même.
D'accord.
On parle de plus en plus de dématérialisation. Par exemple, si je veux faire ma carte grise à la préfecture, ben maintenant tout se passe derrière mon écran. Nous-mêmes au lycée, on dématérialise de plus en plus. Hein, on utilise de moins en moins le livre papier. Et vous nous parliez du coût écologique de l'extraction de ces terres rares. Donc finalement, si on fait une balance entre les inconvénients et les avantages du numérique sur l'environnement, de quel côté penche la balance par rapport à tout le papier qu'on utilisait auparavant?
Eh bien, figurez-vous qu'on ne sait pas répondre à cette question. Il y a un grand discours aujourd'hui qui consiste à dire que grâce au virtuel, grâce au numérique, on va dématérialiser nos existences, et c'est une situation gagnant-gagnant. Ça veut dire qu'on va pouvoir continuer à nous enrichir, à faire croître notre économie, ça va permettre de faire s'épanouir le capitalisme, et dans le même temps, comme à chaque action génératrice de valeur, on va la répliquer non pas dans le monde physique mais dans le monde virtuel, alors l'impact écologique de chacune de ces actions va être amoindri. Donc finalement, on va pouvoir faire plus avec moins. C'est ça la grande idée aussi du virtuel, c'est ça le grand discours, le grand narratif qui consiste à dire que le numérique, de facto, est cohérent et compatible avec la lutte contre le changement climatique. C'est le meilleur allié de l'environnement. Simplement, d'un côté, effectivement, il y a un gain, objectivement. Je veux dire, si je vous parle à distance sur Bac FM plutôt que m'être déplacé jusqu'à vous en voiture pour faire l'interview, c'est grâce notamment à un téléphone portable. Et donc, ça a évité les émissions de CO2. Et pour autant, tous les nouveaux usages permis par le numérique sont absolument colossaux. Vous avez parlé des usages du numérique à l'école qui n'existaient pas avant. Et ça, ce sont des nouveaux usages, des nouvelles tablettes, des nouveaux écrans qui, du coup, ont un coût supplémentaire. Et donc, aujourd'hui, on ne sait pas quel est le solde. On ne sait pas si, finalement, le numérique profite à l'environnement davantage qu'il ne lui nuit, ou l'inverse. Il faut avoir la grande honnêteté d'esprit de reconnaître que, en fait, c'est très difficile de le savoir. En revanche, ce que l'on sait, c'est que le numérique, c'est le secteur de l'économie qui aujourd'hui probablement croît le plus vite. Et donc c'est celui dont l'empreinte écologique croît le plus vite. Le numérique, c'est 10% de la consommation d'électricité mondiale, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre, et ces deux chiffres sont appelés probablement à doubler à l'horizon 2025, compte tenu de la virtualisation de nos existences, compte tenu du fait qu'avec la crise sanitaire que nous vivons actuellement, nous sommes toujours plus en ligne. Le numérique, c'est énormément de matières premières, ce qu'on a mentionné avant. C'est 34 milliards d'équipements électroniques qui se promènent sur Terre. C'est 5000 tours Eiffel de déchets électroniques produits chaque année. Or, l'explosion de cette empreinte est telle qu'il y a un risque, si nous n'y prenons pas garde, et si nous n'en parlons pas sur BAC-FM, donc merci de m'inviter, eh bien il y a un risque que finalement on aboutisse à des coûts écologiques qui soient absolument colossaux et surtout absolument immaîtrisables. D'où l'importance de ce sujet, c'est un grand sujet écologique, l'un des principaux sujets écologiques des 30 prochaines années, j'en suis absolument persuadé.
Merci Guillaume Pitron, on se détend un petit peu les oreilles avec le morceau « Tourist » de Julian Casablancas et on se retrouve juste après pour la suite de notre interview. C'était Tourist, extrait d'un album solo de Julian Casablancas. Nous sommes toujours en compagnie de Guillaume Pitron, journaliste et documentariste, qui nous fait le plaisir de répondre à nos questions à propos des sujets abordés par son dernier livre intitulé « L'enfer numérique, voyage au bout d'un like ». Alors, avant de marquer une pause musicale, au fond, vous abordiez la question de savoir si la transition numérique est compatible avec la transition écologique. Et vous montriez qu'au fond, la réponse est loin d'être évidente et que ce qualificatif de numérique vert ou de numérique responsable, au fond, suscite plus d'interrogations que de certitudes. Question un peu technique que j'aimerais vous poser, mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus. La consommation d'électricité du numérique augmente de 5 à 7% par an en ce moment, si je vous ai bien lu. Est-il croyable que le développement technique permette ou permettra de baisser cette consommation d'électricité, puisqu'il y a cette espèce de croyance dans la technique à toujours baisser sa consommation d'énergie?
C'est une vraie question et c'est un point de vue très optimiste auquel j'ai envie de croire, que l'amélioration des technologies va précisément permettre, encore une fois, d'accompagner une moindre consommation de l'électricité. Le réseau électrique intelligent, le fameux smart grid, et votre compteur Linky chez vous, si vous en avez un, participe de ce réseau électrique intelligent. Il doit permettre cela. Il doit permettre de mieux connaître votre consommation d'électricité à l'instant T, parce qu'il y a des capteurs numériques qui permettent justement d'avoir accès à cette information et de faire en sorte de distribuer de l'électricité à travers le réseau de façon beaucoup plus précise, beaucoup plus adéquate, adaptée à l'instant T aux besoins de chacun. Et ces smart grids-là, ils permettent déjà d'énormes quantités, d'énormes économies d'électricité, peut-être de l'ordre de 10% au moins, selon certaines études. Mais d'un autre côté, ce qu'il faut comprendre, c'est que le numérique, en fait, il accroît nos usages. Songez juste aux usages de nos SMS, ce que nous faisons aujourd'hui. Moi, quand je me prends un téléphone portable, je vais paraître un vieux dinosaure, je l'ai eu en 1999, j'avais un forfait Bouygues, et j'avais droit à 30 ou 40 SMS par mois dans mon forfait. Aujourd'hui, 30-40 SMS, c'est probablement le nombre de messages que j'envoie par jour. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le numérique permet en fait d'accroître nos usages. Ça permet une inflation de nos usages numériques. Donc d'un côté, il y a un gain d'électricité, comme vous l'avez dit, qui est permis par ces technologies, mais de l'autre, parce que justement elles peuvent se présenter toujours plus propres, toujours plus vertes, toujours plus dématérialisées, elles nous enjoignent, elles nous incitent à consommer toujours davantage. Et aujourd'hui, nous avons toujours plus sur les réseaux sociaux, et demain, c'est déjà annoncé, c'est déjà promis par Mark Zuckerberg, un prochain confinement en 2030, on le passera avec des casques de réalité virtuelle dans Roblox ou dans le métavers. Et donc finalement, si vous voulez, il y a une course de vitesse entre ces technologies qui évoluent, pour le meilleur, et l'explosion de nos usages qu'elles permettent. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Et c'est une course de vitesse, et bien malin celui qui peut dire laquelle de ces deux tendances va prendre le pas sur l'autre. Mais je pense qu'en réalité, on va vers, en fait, à mon avis, c'est mon sentiment, c'est ma conviction, vers une situation dans laquelle l'inflation des usages va dépasser, en fait, les gains économiques permis par cette même technologie. En tout cas, c'est un risque, il faut en avoir conscience.
Donc, si on vous comprend bien, là, si on prenait le cycle de la consommation du numérique, on n'en serait qu'au début, là.
Ah, mais en fait, on a juste commencé à peine la transition numérique. Nous vivons, en fait, les balbutiements de la révolution numérique. Songeons, rappelons-nous un instant, ce qu'était le monde de l'iPhone 2 ou de l'iPhone 3. C'était un monde dans lequel on avait le quart du tiers de la moitié des opportunités de virtualisation de nos existences que celles que nous avons aujourd'hui avec un iPhone 12 ou avec un iPhone 13. Et ce sera quoi le monde de l'iPhone 23 en 2031? Si vous acceptez de me réinviter en 2031 pour reparler de ces sujets, ce sera un monde dans lequel on a déjà annoncé le métavers. Et on le voit déjà, il vit déjà aux États-Unis avec Roblox. On aura peut-être tous des avatars.
Peut-être que tous nos auditeurs
auront été accélérés.
Peut-être que tous nos auditeurs, excusez-moi, ne savent pas encore ce que c'est ou déjà ce que c'est qu'un métavers. Est-ce que vous pourriez l'expliquer, s'il vous plaît?
Un métavers, c'est la continuation logique des réseaux sociaux actuels. C'est-à-dire que nous surfons actuellement sur toutes sortes de réseaux sociaux. Demain, dans le métavers que nous promet notamment Facebook, mais pas que Facebook, nous pourrons avoir un avatar et nous déplacerons en fait géographiquement dans un espace virtuel. Et donc, c'est une expérience améliorée, en virtuel, dans un monde virtuel, de l'expérience que nous pouvons avoir sur les réseaux sociaux. Et avec une consommation énergétique, une consommation de matière pour vivre ses vies, justement dans ce type d'espace numérique-là, qui sera toujours agrandi. Et donc nous sommes au tout début de l'explosion de nos usages numériques, qui est promis avec l'Internet des sens, l'Internet des corps, l'Internet des objets, l'Internet des tout, c'est-à-dire en fait un monde entièrement connecté où on connectera les animaux, les végétaux, les humains, et ainsi de suite. Et donc en fait, c'est pour ça que je crois vraiment qu'on est à l'amorce de ces nouveaux sujets et que en fait on ne va que vers une explosion de l'empreinte numérique et environnementale du numérique.
Donc on va vers une explosion du numérique, et si on prend le numérique dans son ensemble, à travers les infrastructures, les mines de terres rares, est-ce que ça entraîne une redistribution des cartes au niveau géopolitique?
Il y a absolument une géopolitique du téléphone portable, et finalement il y a une géopolitique de nos likes, puisque en fait le numérique capte entre, ça dépend des métaux, 7% de la consommation de cuivre mondiale, mais 30, 40, 50, 60, 70% de la consommation, de la production de certains petits métaux, tels que, par exemple, notamment les terres rares. Pour toutes sortes d'usages, hein, les écrans plats, les puces électroniques, les condensateurs dans vos téléphones portables, et ainsi de suite. Qui produit aujourd'hui ces minerais? Aujourd'hui, c'est notamment les petits métaux, qu'on appelle quelquefois métaux rares, et les terres rares en font partie. Ils sont produits notamment par la Chine. Donc c'est la Chine qui fournit ces matières premières au reste du monde. La Chine a envie actuellement de conserver ces matières premières pour elle-même et de fabriquer des composants qu'elle vend beaucoup plus cher. C'est un peu comme si le paysan ne vendait plus son blé, mais fabriquait une boulangerie et décidait de vendre du pain, de façon à générer de la valeur ajoutée sur la production de son blé. Les Chinois font pareil. Et donc du coup, nous sommes de plus en plus asservis à la production chinoise. Nous dépendons de Pékin pour la fourniture de certains métaux et de certains composants qui font partie intégrante de notre vie électronique. Et donc il y a bien une géopolitique ici qu'on voit surgir. Du coup la question se pose de savoir mais comment est-ce qu'on échappe à l'emprise de la Chine sur ces matières premières? Comment est-ce que nous, Européens, Américains, Australiens, pays de l'OCDE, produisons ces métaux en quantité suffisante pour en fait échapper à la mainmise chinoise sur ces marchés? Et c'est là que tout d'un coup, nous nous tournons vers les fabuleuses réserves de lithium, de cobalt, de graphite, de terres rares, de nickel, de toutes sortes de pays. La Bolivie, la Nouvelle-Calédonie, l'Australie, peut-être demain l'Afghanistan, qui sait, on verra. En tout cas, il y a une géopolitique de ces matières premières. Et si au XXe siècle, il y a eu, on le sait bien, une géopolitique du pétrole pour avoir accès à cet or noir, quel pétrole? Eh bien, au XXIe, se cristallise déjà une géopolitique de ces métaux rares, aussi très stratégique pour nos vies connectées, pour pouvoir tout simplement vivre nos vies davantage virtuelles. Mais donc ce sont des nouveaux rapports de puissance, des nouvelles dynamiques de puissance qui vont opposer les états producteurs, les états clients de ces matières premières, encore une fois, pour pouvoir aller, nous tous, surfer sur les réseaux sociaux.
Mais vous le disiez tout à l'heure, au fond, pour obtenir plus d'autonomie, pour que l'Europe, en tout cas, ou notre pays, obtienne plus d'autonomie au niveau de ces matières nécessaires au numérique, on pourrait finalement, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, faire une mine de terres rares sous Bac FM, ou en tout cas, on pourrait peut-être en faire en France. Il me semble que c'est très utile d'invisibiliser ces mines ou le caractère polluant du numérique en le faisant dans des pays qui sont loin des utilisateurs, loin des usagers. Est-ce que ce serait politiquement réaliste d'ouvrir une mine de terres rares en France, par exemple?
Je pense que c'est politiquement complètement irréaliste d'ouvrir une mine de terres rares. Certaines entreprises ont essayé notamment d'ouvrir une mine de tungstène, de réouvrir une mine qui avait déjà été en production, une mine de tungstène dans l'Ariège, au sud de la France. Ils n'y sont jamais parvenus parce qu'il y avait une opposition radicale des populations locales qui invoquaient notamment l'environnement, la sérénité, etc. pour s'opposer à ces projets-là. On peut extraire des terres rares en France, on peut en extraire notamment dans le massif armoricain. Il y a des gisements, pas forcément des grands gisements, enfin, on pourrait le faire. Mais le problème, c'est qu'en fait, nous ne voulons pas payer écologiquement pour un monde virtuel. Et donc nous sommes nous-mêmes, et moi le premier, consommateurs de ces objets numériques, tout à fait pris à nos contradictions lorsqu'il s'agit d'assumer ces coûts-là. Et c'est pour ça que nous avons laissé, dès les années 80, partir en fait les mines de métaux que nous ne voulions plus produire pour nous-mêmes vers des pays pauvres, vers des pays sous-développés, vers des pays qui acceptaient de polluer de se polluer pour que nous puissions, nous, ensuite, avoir nos téléphones portables. Et finalement, quelque part, nous sommes bien contents d'avoir, non pas les mines de cobalt au milieu de la France, mais les mines de cobalt au Congo-Kinshasa. Et nous sommes bien contents d'avoir des mines de graphite et de terres rares qui se trouvent en Chine et non pas en Auvergne ou dans le Languedoc-Roussillon. Donc, je pense que c'est pas demain qu'on va réussir à extraire des terres rares. Peut-être du lithium. Barbara Pompili, la ministre de l'Environnement, en a parlé tout récemment en soulignant que peut-être que pour nos besoins en lithium, notamment pour la mobilité électrique, hein, puisque le lithium, il en faut pour les batteries des voitures électriques, ce serait peut-être bien d'aller les chercher cette matière chez nous plutôt qu'ailleurs, et que du coup le gain environnemental serait aussi net, parce que ça se ferait selon nos normes et pas selon les normes chinoises. Mais encore une fois, il y a une bataille politique énorme qui s'annonce face à une population qui est complètement réticente à ces perspectives-là. Mmh. Et je le dis à nos auditeurs, il faut se regarder dans la glace. Si nous voulons des vies connectées, il va falloir assumer ce coût écologique-là et pas laisser, comme d'habitude, les pauvres se salir pour que nous puissions ensuite avoir des jolis, tout beaux téléphones portables entre nos mains et dans notre poche.
Alors, j'aurais justement une question à vous poser qui s'articule avec ce que vous venez de dire, mais juste avant, puisque notre émission aussi s'achemine vers sa fin, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement pourquoi l'Estonie est la nation la plus digitalisée de la planète ?
C'est un État qui a complètement migré en ligne et où, à part vous marier, peut-être divorcer, effectuer quelques grosses opérations bancaires, en fait, tout se passe en ligne. Et c'est un État qui a pris le virage du numérique très très tôt, dès la chute de l'URSS. Cet État était animé par un désir de transparence. Or, le numérique était perçu comme permettant la transparence. C'est également l'Estonie, une nation d'ingénieurs. Et donc, en fait, cet État aujourd'hui est celui où vous êtes le mieux prêté en tant que e-citoyen d'un État qui a mis au point des outils qui permettent de fluidifier les rapports entre l'administration et l'administré. La France, hein, s'achemine vers ce type déjà, hein, a de plus en plus de services d'administration en ligne. Édouard Philippe, à l'époque où il était Premier ministre, citait d'ailleurs souvent l'exemple estonien comme étant un exemple à suivre, donc c'est ce que nous faisons. Mais effectivement, l'Estonie, qui est un tout petit État balte dont on n'entend jamais parler, est en fait un phare, un laboratoire de ce monde toujours plus connecté qui vient, et ils s'enorgueillissent de pouvoir justement montrer cet exemple au reste du monde. Et puis là, ils avancent aussi les gains écologiques, qui disent grâce à cela, on se déplace moins, on n'a pas besoin de se déplacer à la mairie pour effectuer une opération administrative, on économise du papier.
Donc, le discours du numérique responsable.
Absolument. D'accord.
Alors, dernière question de notre entretien. Vous venez parler dans la question précédente, dans votre réponse à la question précédente, il faut se regarder devant la glace, dans la glace, lorsque on utilise ces technologies numériques. Au début de votre livre, vous épinglez les jeunes militants écologistes du mouvement lancé par Greta Thunberg, qui dénoncent la surconsommation de viande, par exemple, et les voyages en avion, mais qui passent leur journée à faire de l'activisme sur les réseaux sociaux ou les plateformes numériques. Ça nous touche, on est une radio lycéenne, on en a quelques-uns dans notre établissement. Qu'est-ce que vous leur conseillez, du coup, d'écrire des livres, de militer? Comment est-ce qu'on peut militer pour l'écologie sans polluer, sans tomber dans des contradictions?
Je vais préciser ma pensée. Je pense que le militantisme sur Internet est absolument indispensable. Et si un hashtag permet de faire descendre des centaines de milliers de jeunes dans la rue vendredi, c'est tant mieux. Moi, je suis un fan de Greta Thunberg, et je pense que ces outils numériques sont nécessaires pour faire prendre conscience de l'urgence écologique. Tout pollue. Respirer pollue. Donc on va pas s'arrêter de respirer parce que ça pollue. Et on va pas s'arrêter de faire des hashtags dans les mouvements écologistes militants lycéens parce que ça pollue. Il faut contrebalancer la pollution numérique avec les bienfaits que ça peut générer, à commencer par celui de mobiliser les foules le vendredi. En revanche, là où j'interroge la génération Greta, c'est que un jeune aujourd'hui en France, de 18 ans, a eu entre les mains 5 téléphones portables. Un jeune Américain, qui a l'âge de Greta, il passe chaque jour 7h22 de son temps libre sur les réseaux sociaux, en ligne, en général. Donc c'est absolument énorme comme consommation, et cette consommation n'est pas seulement de numérique, n'est pas seulement orientée vers le militantisme écologique. C'est pour toutes sortes d'usages, comme vous l'imaginez bien. Et c'est cet usage que je questionne. Donc d'un côté, vous avez un outil, vous, la jeunesse, ceux qui nous écoutez, les lycéens, un outil fabuleux qui va vous permettre justement... Eh bien, c'est un fabuleux effet de levier pour protéger le climat, parce qu'il vous permet justement d'organiser ces marches du vendredi, pour ne citer qu'elles. Et d'un autre côté, il va être utilisé aussi pour toutes sortes d'usages qui sont parfaitement inutiles et parfaitement polluants, et pour lesquels il y a peut-être un décalage entre l'utilité que ça peut avoir et la pollution que ça peut générer. Et vous êtes les premiers, de plus en plus, à consommer ces outils-là. Et donc, il y a un paradoxe ici, et je vous lance une mise en garde. Attention à ce que, finalement, vous ne soyez pas à l'avant-garde de l'explosion de cette empreinte numérique qui, encore une fois, est un grand sujet des 30 prochaines années. Donc, évidemment qu'il ne s'agit pas de désinformatiser ou de dénumériser. Je ne dis pas qu'il faut jeter son téléphone portable. Je ne dis pas que, enfin, ne plus l'utiliser. Je ne dis pas qu'il faut arrêter d'aller sur les réseaux sociaux. Mais je dis quel usage intelligent, cohérent avec la transition écologique et avec vos idées ou vos valeurs, allez-vous faire de ces outils que vous avez entre les mains, qui font de vous des demi-dieux et qui en même temps requièrent de votre part immensément une immense sagesse.
Eh bien, merci beaucoup, Guillaume Pitron, d'avoir pris le temps de nous éclairer sur les dessous du numérique. J'espère que nos jeunes vous écouteront. Merci aussi à Christophe pour l'animation. On se quitte en musique avec le morceau Weeping Willow des Verve. À très bientôt sur Bac FM. Salut.